Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, votre invitée ce matin, Olivier Dussopt, secrétaire d'État à la fonction publique.
Bonjour Olivier Dussopt.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On ne vous a pas entendu en fait depuis votre nomination surprise au gouvernement. Vous réservez à RTL votre première prise de parole. Permettez-moi de dire que vous n'êtes pas encore très connu du grand public. Vous avez 39 ans, vous avez été élu sans discontinuer député socialiste depuis 2007. Vous étiez un des visages juvéniles, peut-être pas, mais enfin jeune, de ce groupe socialiste. L'étiquette de traître n'a pas été trop dure à porter.
Les mots comme ceci ne sont jamais agréables à entendre, mais j'ai un principe, c'est que je ne réponds pas et je ne commande pas les petites phrases. Celles et ceux qui ont fait assaut d'amabilité ou d'inélégance au choix, après ma nomination, n'ont pas forcément été toujours celles et ceux qui étaient les plus clairs dans leurs engagements et les plus clairs dans leur loyauté vis-à-vis du parti ou du gouvernement précédent. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est d'être utile, de travailler et de le faire en cohérence à la fois avec un parcours mais aussi avec les convictions qui m'animent.
Vous répondez à l'accusation de traîtrise par une accusation de loyauté en pointillé. C'est peut-être pas le cas de Boris Vallaud, qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée, qui est maintenant député socialiste, et qui a dit une phrase, alors pour le coup une amabilité assez violente. Il a dit de vous, il a craché au visage des députés socialistes.
Oui, mais je le prends pour ce que c'est. C'est-à-dire une petite phrase inutilement blessante et qui n'apporte rien au débat.
Qui n'apporte rien au débat.
Rien.
Mais vous avez compris quand même ce
non,
sentiment
non,
de...
Non, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne le commande pas. Je considère
c'est un
aujourd'hui...
peu facile. Non, est-ce qu'il vaut mieux pas essayer de justifier votre démarche?
La justification, elle est très simple. Pendant la campagne des élections législatives, j'ai dit et j'ai écrit, dans ma profession de foi, comme candidat socialiste, et comme beaucoup de candidats socialistes d'ailleurs, que je voulais à la fois la réussite du quinquennat, et que je voulais y participer. J'avais exprimé des choix pendant toute la mandature précédente. J'ai exprimé des choix pendant la campagne législative. J'ai dit que je voulais être exigeant et constructif, que je voulais être utile à la réussite du pays. Et lorsque le Premier ministre et le Président de la République me proposent de m'engager, me proposent d'aller plus loin et de participer au gouvernement sur des thèmes et avec des enjeux qui sont forts, je n'ai aucune raison de refuser. C'est cohérent avec ma trajectoire et cohérent avec ma volonté d'être utile.
J'insiste encore un peu parce que vous dites j'ai été exigeant. Ben oui, vous aviez voté contre les ordonnances travail, sauf erreur.
Oui.
Vous avez voté contre le budget 2018, dont on sait bien que c'est un acte politique fort. Et à peine nommé, vous êtes allé défendre ce budget. C'est pas une volte-face, ça?
Ça n'est pas une volte-face, puisque si vous reprenez les débats qui se sont tenus au Parlement, notamment sur les questions de la fonction publique, vous verrez que je n'étais pas dans une opposition, mais dans des interrogations. Et je peux vous assurer que j'ai un principe de fonctionnement...
Quand on a des interrogations, on s'abstient, on ne vote pas forcément contre.
Mais j'ai un principe de fonctionnement dont certains auraient pu s'inspirer dans les années précédentes. C'est la solidarité de groupe. Et la solidarité de groupe, la discipline de groupe que j'ai observée, j'aurais exactement la même attitude vis-à-vis de la solidarité gouvernementale.
Par discipline de groupe, on peut voter contre une partie de ses convictions?
On peut faire en sorte que des nuances, des réserves puissent s'effacer derrière la volonté de préserver un collectif. Ça n'a pas toujours été le cas dans les années précédentes.
Ouais. Bon, ce n'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent, disait Edgar Faure.
Je ne suis pas sûr qu'on puisse résumer les choses comme cela.
Vous êtes de gauche?
Je suis de gauche. Je suis progressiste, je suis social-démocrate et je l'ai toujours été et je le reste.
Est-ce que Emmanuel Macron, vous choisissant, n'a pas voulu aussi finalement faire un... va continuer à déstabiliser le PS, pour dire les choses.
Est-ce que
vous en êtes conscient de ça aussi?
Ne résumons pas les choses à cela. On peut reconnaître au président de la République deux qualités. La première, c'est que son élection à la fonction présidentielle a entraîné une recomposition majeure du paysage politique qui en avait bien besoin. Et aujourd'hui, cette recomposition continue. Il rassemble autour de lui des hommes et des femmes qui viennent d'horizons différents, qui ont de parcours différents, mais qui sont unis sur une chose, c'est le projet présidentiel, les priorités et la volonté de transformer en profondeur le pays.
Vous êtes toujours au PS? Vous avez été viré par... en tout cas, un tweet l'avait annoncé dans les minutes qu'ont suivi l'annonce de votre nomination.
Je n'ai pas reçu formellement de lettre d'exclusion, mais effectivement, j'ai vu que le secrétaire administratif du Parti Socialiste avait... communiquer pour dire que je n'étais plus membre du Parti Socialiste.
Mais vous n'avez pas reçu une petite feuille bleue?
Je n'ai rien reçu, mais au-delà de tout ça, je pense que les valeurs, les convictions qui nous animent ne dépendent pas d'une carte d'adhésion ni d'un bout de papier.
Mais vous avez envie, par exemple, d'adhérer à En Marche?
Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'est pas l'ordre du jour.
Comme est-ce que c'est dans la logique?
D'autres membres du gouvernement, le premier d'entre eux, ne sont pas membres d'En Marche. L'essentiel, c'est de se rassembler, de se reconnaître dans la majorité présidentielle, et surtout, j'insiste, l'essentiel, c'est de travailler. C'est porter des projets.
On a l'impression que vous n'avez pas envie de rejoindre En Marche aujourd'hui.
Ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui.
Pourquoi?
C'est pas parce qu'on...
Pourquoi?
Est-ce qu'on peut imaginer, une seconde, je crois que c'est assez facile, qu'on puisse être dans la majorité présidentielle, s'y reconnaître, sans nécessairement adhérer à tel ou tel parti, tel ou tel mouvement politique.
Vous ne reconnaissez pas forcément.
Je me reconnais dans la majorité présidentielle.
Oui, mais
je m'y inscris pleinement. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça n'est pas la question principale.
C'est pas mûr pour vous.
La question principale, c'est d'être utile et c'est de travailler. Ça ne dépend pas de l'adhésion à tel ou tel mouvement.
Supprimer 120 000 fonctionnaires sur 5 ans, promesse électorale de Macron, c'est de gauche ?
C'est un objectif annoncé par le président de la République.
Est-ce que c'est de gauche ? Vous êtes de gauche.
C'est un objectif annoncé par le président de la République. Oui. C'est une cible. Il faut l'atteindre pour permettre la réduction des déficits.
C'est mais une cible. 120 000, c'est une cible. C'est pas forcément
c'est
le résultat qui
c'est
sera atteint à la fin du quinquennat.
C'est un objectif à atteindre. Le président de la République a cette particularité, je crois que tout le monde le reconnaît, de faire ce qu'il dit et de tenir les engagements qu'il a pris. Par contre, je dois insister sur un point aussi. La réduction des effectifs n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique du gouvernement en matière de fonction publique. Nous travaillons sur la qualité des services. Lorsqu'on regarde le budget pour 2018, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a entre guillemets que 1600 suppressions
postes de postes. Seulement. Oui. Donc ça veut dire que tout
parce
l'effort que va
fois,
être concentré sur les 3-4 années qui
viennent.
Parce que pour
une fois, nous prenons le temps de réfléchir. A été lancé un processus qui s'appelle Action publique 2022, avec un comité d'experts, avec des consultations syndicales, avec des forums de l'action publique partout sur le territoire, avec des demandes de contribution à chacun des ministres.
Pourquoi
dans le
il
secteur
ferait mieux
d'activité.
Que la RGPP de Nicolas Sarkozy ou que la modernisation de l'action
viens,
publique de Hollande ?
Parce que tout ce que vous avez présenté à l'instant comme réformes qui ont eu lieu dans le passé, toutes ces réformes ont été menées sans qu'il y ait de concertation préalable. Là, pour une fois, nous prenons le temps de la concertation. Pas le temps de la concertation uniquement pour dire est-ce qu'il en faut 100 000, est-ce qu'il en faut 120 000, mais pour dire quelle est la puissance publique, quel est l'État que nous voulons en 2022, quels sont les services que la population attend de la part de l'État, de la collectivité publique au sens large, quels sont le sens des politiques que nous menons. Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels l'État intervient alors que ça n'est plus légitime, mais est-ce qu'au contraire, il y a
alors,
des secteurs dans lesquels l'État n'intervient pas et où il devrait agir ?
Parce que vous êtes sur cette mission capitale, d'ailleurs, le Premier ministre l'a souligné à la sortie du séminaire mercredi prochain, c'est donc la réforme de l'État. Et il a aussi précisé qu'il y aurait des transferts de missions entre le public et le privé. Quelles sont les missions que le privé, que le marché peut faire mieux aujourd'hui, et de façon moins coûteuse, puisqu'on me rappelle qu'il y a quand même un énorme effort budgétaire à faire, sans nuire à l'intérêt général, à la cohésion, comme on dit.
D'abord, on ne peut pas résumer la lettre de mission du Premier ministre à la volonté d'externaliser.
Non, mais c'est comme vous venez de venir sur ce terrain, je vous demande. Quelle mission ?
C'est une piste et cela existe déjà. La délégation de services publics, elle existe depuis le début du XXe siècle.
Qu'est-ce qu'on peut faire encore plus
un certain nombre de services, c'est extrêmement utile. L'objectif
Par
n'est
exemple,
pas de dire...
Est-ce que vous pouvez me donner des exemples ? Soyons un peu concrets.
Je veux bien être concret, mais on ne peut pas à la fois dire qu'on prend le temps de la concertation et préempter le résultat de la concertation.
Mais vous, votre avis ?
On peut aussi considérer que la délégation de services publics, ce qu'on appelle parfois l'externalisation, sera décidée par des collectivités locales, en autonomie et en indépendance. Et ce n'est pas l'État qui décidera pour les collectivités locales. L'externalisation et le fait de confier un certain nombre de services à des acteurs privés, cela existe. Ça n'est pas une religion, ça n'est pas un tabou.
Mais vous,
prenons
par exemple, vous avez été président
de la réflexion
de l'Association des petites villes de France. Vous avez été maire d'Annonay pendant longtemps, député. Quels sont, par exemple, puisque vous êtes, c'est vrai, représentant des collectivités locales au gouvernement, quelles sont les missions que vous pensez que les collectivités locales peuvent prendre ?
Je vais prendre un exemple très simple et qui s'inscrit dans le quotidien. La ville d'Annonay, que vous avez citée, qui est la ville au sein de laquelle j'ai été maire, dans laquelle j'ai été maire pendant 10 ans, a une régie municipale de l'eau, à une régie intercommunale de l'assainissement. Et donc, nous avons un service public de l'eau et de l'assainissement. Malgré cela, nous avons confié à des acteurs privés, par sous-traitance et par externalisation, tout ce qui relève du contrôle qualité, tout ce qui relève des analyses biologiques et bactériologiques, tout ce qui relève de la permanence et de l'astreinte, parce que nous considérons que la taille de ces sociétés privées rend leur réactivité meilleure que la taille de nos services.
Il n'y a pas eu de baisse de qualité du service public.
Il n'y a pas eu de baisse de qualité du service, il y a eu une baisse des prix, et nous avons en plus mis en place une tarification sociale pour faire en sorte que les premiers mètres cubes soient quasiment gratuits afin de favoriser les ménages de petite taille, notamment les personnes seules, isolées, souvent âgées dans des territoires
donc
comme
vous
le mien,
attendez
avec
les...
de petits revenus.
Donc vous attendez les propositions des collectivités locales.
Il y a des propositions des collectivités, des organisations syndicales, des ministères, des Français. Il y a un forum de l'action publique avec des réunions qui se tiennent partout sur le territoire, mais aussi une plateforme numérique qui permet des contributions.
Un mot, j'augmenterai votre pouvoir d'achat, disait Emmanuel Macron aux fonctionnaires, comme celui des salariés des entreprises. Mais ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Les salariés du privé, à l'exception des gros salaires, vont bénéficier d'une hausse du pouvoir d'achat par le biais de la baisse des cotisations sociales sur un an, malgré la hausse de la CSG. Les fonctionnaires, eux, ne perdent pas un euro, mais ne gagnent rien. Ils ont raison de se sentir lésés.
Vous avez raison de dire qu'ils ne perdent pas un euro.
Oui. Mais ils ne gagnent rien, comparativement.
Vous auriez aussi raison de rappeler que nous sommes au début du quinquennat et qu'il faut laisser un petit peu de temps. Un mot sur ces deux sujets. Premier sujet sur la compensation. Elle est intégrale. C'est un engagement qui a été pris. Le décret a été présenté au Conseil des normes le 30 novembre. Il a été publié le 31 décembre. Et la compensation par l'État est intégrale, par une baisse de la cotisation maladie employeur, par l'inscription de crédits dans le budget, qui tout ça permettra aux employeurs territoriaux, hospitaliers et d'État de compenser sur l'augmentation du pouvoir d'achat. Le point d'indice a été augmenté récemment de 2 fois 0,6%, et les mesures catégorielles ont permis une augmentation du revenu mensuel moyen, c'est un peu technique, de 4% au cours de la dernière année.
Les fonctionnaires ne sont pas à plaindre leur rémunération,
vous savez, les fonctionnaires, depuis 10 ans, on leur demande des efforts. Donc je ne tomberai pas dans la facilité de dire qu'ils ne sont pas à plaindre. Cela fait 10 ans qu'on leur demande des efforts, que le point d'indice était gelé. Je disais qu'il a été dégelé 2 fois 0,6% au cours des 18 derniers mois, après 7 ans de gel, que personne n'avait remis en cause. Donc,
vous avez annoncé le gel du point d'indice,
Pour 2018, nous avons aussi annoncé que nous ouvrons des discussions sur la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire. C'est un sujet majeur.
C'est-à-dire que les employeurs publics vont payer davantage,
pourraient être amenés à
contribuer davantage à la complémentaire privée, c'est ce que vous souhaitez?
La méthode, c'est le dialogue.
Et
nous souhaitons que les employeurs publics, tout confondus, puissent mieux participer à la protection sociale complémentaire des agents publics.
Quand aura lieu le prochain rendez-vous salarial, qui est initialement
prévu? Il était prévu au mois d'octobre. Les 8 des 9 organisations syndicales représentatives demandent qu'il soit avancé. Et nous sommes en train de voir.
Au printemps, par exemple.
Quelle est la possibilité, quel est le meilleur moment pour pouvoir à la fois répondre à leurs demandes et en même temps avoir des choses à leur dire et à leur proposer.
Le printemps, ce serait ce bon moment?
Il demande à ce qu'on puisse l'avancer, essayons de l'avancer au mieux. Si je vous dis le printemps et que c'est au mois de juin, vous allez m'en faire le reproche.
Oui, remarquez, jusqu'au 21 juin, je crois que c'est le printemps, non?
Je me méfie toujours des dates et du calendrier.
Merci beaucoup Olivier Dussopt d'avoir été avec nous ce matin dans le studio d'RTL.
Après les attaques dont il fait l'objet au sein du Parti Socialiste, Olivier Dussopt refuse d'y répondre et réaffirme sur RTL être un social-démocrate de gauche qui se reconnaît dans la majorité présidentielle. Le secrétaire d'État à la fonction publique qui confirme l'objectif final de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires, objectif 2022. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.